Bonjour à tous, bienvenue sur Expresso, les interviews histoire de Timeline, en partenariat évidemment avec le Salon du Livre d'Histoire de Versailles. J'ai l'immense honneur de recevoir aujourd'hui pour leur livre Pompéi, Pascal Charvet et Annie Colonna. J'aurais dû commencer par les dames, puisque c'est quand même la coutume, qui sont l'un et l'autre linguistes, hellénistes et agrégés de lettres classiques. Je suis ravi de vous accueillir. Bonjour à tous les deux.
Bonsoir.
Ou bonsoir, vous avez raison, c'est vrai que oui, bon. Je ne me rends même plus compte, il fait nuit. Vous m'avez fait voyager, d'autant plus voyager que moi je connaissais Herculanum et pas Pompéi. Je suis allé à Herculanum, il y avait moins de monde. Pourquoi c'est Pompéi qui emporte tout et pas Herculanum? Première question à tous les deux.
Oui, allons-y, après l'autre.
Annie.
Salouette d'abord, je dirais. Donc, bienvenue et salut à tous. C'est une question de découverte, je dirais, historique.
Hein. C'est le premier qui a été découvert.
Voilà. Je ne vais pas entrer dans le détail des dates. Tout est expliqué dans notre ouvrage. Mais à la fin du XVIIIe siècle, tout à fait par hasard, quand un paysan tombait sur un morceau de marbre où on en devinait quelques lettres, Pompéi en fait, et qu'on commençait les premières fouilles, à une période où on parlait d'antiquité au pluriel, oui, de cabinet d'antiquité, où on gardait les objets que l'on trouvait, bien entendu, en particulier les aristocrates. Donc, on a commencé à fouiller à cet endroit-là. Les fouilles ont continué. Et au XIXe siècle, on peut parler d'une véritable pompéiomanie qui a envahi toute l'Europe. Alors, nous avons... par exemple, Théophile Gautier, sa superbe nouvelle Aria Marcella, Alexandre Dumas, enfin, qui a été un temps d'ailleurs directeur du musée de, oui, Portici, à l'époque, absolument, où on a emporté les objets dans ce qui est disons, l'un des premiers musées créés. Et puis, donc, cette pompéiomanie a continué. On a aussi un très bel exemple dont nous avons l'intégralité dans notre ouvrage d'une nouvelle qui s'appelle La Gradiva, d'un auteur tchèque qui a beaucoup inspiré Freud, puisque la découverte des ruines, c'est aussi une sorte d'anamnèse, hein, retour aux origines. Donc, cette superbe nouvelle que je vous invite à lire, hein, qui s'appelle La Gradiva, a mis Pompéi à la mode, il faut bien dire. Et on avait même à Paris une villa, je ne sais pas si vous le savez, du prince Napoléon, qu'on appelait Plomplon, un des neveux de Napoléon, c'est l'occasion de parler de Napoléon, qui avait fait construire, voilà, qui avait fait construire à Paris une superbe villa pompéienne, qui a fait une fête grandiose pour l'inauguration. Elle était destinée à l'actrice Rachel. Et donc, cette fête superbe, où Gautier était invité d'ailleurs, il y a un beau tableau qui représente la scène. Et donc, Paris vivait sous le signe de Pompéi. Malheureusement, cette villa n'existe plus.
Effectivement. Pascal. Oui.
Alors, j'ajouterais juste, je suis bien sûr tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Annie, il y a des raisons peut-être un peu plus profondes au départ. C'est qu'Herculanum, comme Baïa, mais Herculanum qui a été vraiment touché, enfin, Baïa l'a été autrement, mais enfin, Herculanum a été aussi, évidemment, enseveli. Mais c'était beaucoup moins important parce qu'il s'agissait d'une résidence, enfin d'une ville de résidence secondaire. Herculanum n'était pas une ville vraiment habitée. Et Pompéi était, j'allais dire, le drame est apparu d'autant plus important et crucial que Pompéi est une petite ville avec son administration propre, bien sûr, mais ses industries, la laine, le vin, etc., et qu'elle est apparue aux yeux des anciens comme une destruction totale. Ce n'était pas la destruction d'une ville, enfin, du séjour d'un certain nombre d'aristocrates romains. Les invisibles y sont morts, comme les visibles. Et d'ailleurs, je pense que c'est là où on retrouve tout le travail qui a été conduit par les archéologues du 19e siècle, avec évidemment la reconstitution des corps, hein, tels qu'on les voit grâce à un système qui a été mis au point. Et ça, c'est à Pompéi que c'est apparu. Et donc, la pompéiomanie s'est nourrie profondément de ce que là, c'était l'humanité en tant que telle et pas quelques aristocrates qui avaient été frappés. Même si on a perdu beaucoup à Herculanum, en particulier juste à côté d'Herculanum, il y avait la plus fameuse bibliothèque épicurienne d'un philosophe épicurien, ami de Lucrèce, qui était évidemment, oui, comme tu le dis, Gadara, et qui a, enfin, bon, mais c'est pas la même chose qu'une ville ensevelie avec son boucher, avec ses commerces, avec ses artisans. C'est la vie réelle. Chacun pouvait s'y reconnaître. Il y avait aussi des demeures luxueuses à Pompéi, mais c'est une vraie cité unie autour d'un salon. Et puis, alors, il y a aussi autre chose, peut-être j'ajouterais juste, c'était une ville profondément métissée avec l'Égypte, l'Égypte gréco-alexandrine, car c'est à côté de Pompéi qu'arrivait l'Anon, c'est-à-dire l'impôt payé par les Égyptiens en blé qui nourrissait Rome. D'où la présence importante à Pompéi du sanctuaire, enfin, le sanctuaire d'Isis et beaucoup d'autres choses, mais c'est une ville avec sa singularité et en même temps représentant toutes les classes sociales. Et le dernier élément, je voudrais dire, une ville au statut mobile, car on ne cesse évidemment de jeter à la tête des antiquisants et de l'Antiquité le fait des esclaves. Qu'il soit clair une fois pour toutes que l'esclavage de l'Antiquité n'a rien à voir avec celui, bien évidemment, de la traite malheureux noir au XVIe jusqu'au XVIIIe, enfin XVIIe, XVIIIe, mais rien à voir du tout, car l'esclavage n'était pas raciste. Et les Romains sont une formidable machine à intégration et assimilation. Alors, le patron du British Museum parle de 50% d'affranchis, les Français parlent de 40-45%, mais la moitié presque de la population est constituée d'affranchis, et cela va en grandissant. Non pas pour dire que la condition d'esclave était merveilleuse, elle était extrêmement dure, je ne suis pas en train de... Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'était... Disons, arrêtons de projeter sur l'esclavage dans l'Antiquité des énormités. On n'était pas esclave à vie, déjà. Ce n'est pas la même chose que de l'être pour 10 générations. Voilà. Donc, vous voyez, Pompéi pouvait toucher les gens parce que, aussi bien les autres affranchis de l'Empire, enfin, toutes les catégories sociales se retrouvaient dans ce drame.
Annie, vous vouliez rajouter quelque
chose ? Oui, je dirais, Pompéi, c'est un microcosme. C'est-à-dire, c'est pour nous un résumé... un réservoir de fantasmes aussi, il faut bien dire, hein. Mais un résumé de tout ce que nous avons pu imaginer, voire rêver sur la vie romaine, entre guillemets, alors que c'est une très ancienne cité qui a d'abord été autochtone, les Samnites, hein, ensuite les Grecs, hein, ensuite les Romains, colonie romaine à partir de 80 avant Jésus-Christ, et les Égyptiens, enfin un carrefour cosmopolite. Et elle a l'avantage, par rapport à Herculanum, de présenter toutes les caractéristiques d'une cité romaine, c'est-à-dire un théâtre, amphithéâtre, les lieux de loisirs, les thermes, avec ses rues, ses boutiques, ses échoppes. Il y a plus de 80 de ce qu'on appelle thermopolia en termes savants, qu'on appellerait fast-food aujourd'hui, ce coin où avec des, vous savez, un comptoir où on va manger. Enfin,
et on retrouve même ce qu'ils mangeaient d'ailleurs.
Oui, exactement. On a retrouvé les spécialistes, on a pu reconstituer les menus. Nous avons un chapitre consacré à la cuisine. Donc, découvrir Pompéi, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, si vous ne l'avez pas fait, précipitez-vous. Ou revenez-y, on y revient sans cesse et c'est toujours la même émotion. C'est-à-dire, on a l'impression que, surtout au moment où la nuit tombe et que les touristes s'en vont, on a l'impression que les Pompéiens vont sortir.
Mais c'est ça le meilleur moment, c'est quand les touristes s'en vont.
Oui, c'est magnifique. Partout. Enfin, c'est une émotion, vous voyez, quand vous en parlez, je sens. L'émotion remonte. Donc, nous avons essayé dans cet ouvrage de redonner la vie justement de ces Pompéiens. Je vais prendre juste un exemple.
Allez-y.
Et je reprends ce que disait Pascal sur l'importance des affranchis, donc les esclaves qui ont été libérés et qui ensuite leurs enfants vont pouvoir entrer dans la vie politique, exercer des charges. Donc, c'est comme disait Pascal, c'est une étonnante machine à intégrer. Alors certes, pas tous les esclaves, mais quand même beaucoup. Et il faut penser aussi que beaucoup vivaient, on dirait en latin, familiaritaire, c'est-à-dire familièrement, en famille. Mais famille au sens sous le même toit, avec les parents, les enfants. Il y avait les nounous qui étaient souvent, ou les précepteurs qui étaient souvent d'origine grecque, on appréciait leur culture. Les petits-enfants étaient élevés avec les enfants du maître, hein, comme des frères ou des sœurs de lait. Enfin, on a des stèles là-dessus extrêmement émouvantes. Et je voudrais juste prendre cet exemple très rapide. C'est dans une nécropole aujourd'hui pour montrer combien le travail de l'archéologie nous conforte dans ce que nous savons grâce aux textes et nous redonne cette vie, cet instant de vie, ces instants de vie. C'est une tombe très modeste avec une inscription où l'on apprend qu'une certaine Verania Clara, affranchie par un maître qui s'appelle Quintus Veranius, enfin Quintus Veranius, a fait élever cette tombe pour Alors, je le dis en latin, optimo patrono, ça se comprend tout seul, c'est le meilleur patron possible, sibi, pour elle, pour elle-même, et pour les siens, suis. Alors, les archéologues, là, je m'appuie sur les travaux de William Van Andringa, le grand chef des archéologues français, qui mène une campagne de fouilles actuellement à Pompéi. Donc, ont reconstitué son histoire, c'est-à-dire cette Verania Clara. Alors, Clara, le fait qu'elle s'appelle Clara, Claire, montre qu'elle est affranchie. Elle a pris le nom du maître qui l'a affranchie, Veranus, Clara donc la Claire, hein, et elle a élevé ce tombeau au fils de son maître, donc, qui s'appelle Marcus, celui qu'elle appelle le meilleur des patrons. Et donc, au cours des fouilles, les archéologues ont découvert les urnes qui correspondent aux stèles de ces deux personnes, donc Marcus et Clara, qui ont été incinérées comme ça se faisait souvent à l'époque. Mais voilà, la grande surprise, dans une des urnes, il n'y avait rien, et dans l'autre, il y avait, maintenant avec les analyses qu'on peut faire, on a su qu'il y avait les restes de deux corps incinérés, un homme et une femme. Donc vous voyez tout de suite, même les archéologues ont fantasmé en disant... Ben, voilà, elle a voulu, dans la mort comme dans la vie, être unie à lui. C'était Optimo Patrono, c'était son meilleur patron, mais sans doute aussi plus que son patron. On sait qu'il y avait beaucoup de couples, voilà, maître affranchi et maître esclave. Il y a une belle histoire.
Ouais, qu'on a pu... Il y a des belles histoires.
Voilà, il y a de très belles histoires, oui.
Effectivement. Est-ce qu'il y a des éléments distinctifs dans l'architecture pompéienne? Est-ce qu'on peut dire ça, c'est pompéien, ça, ce serait plutôt Herculanum, ça, c'est plutôt Rome?
Comment, vous n'entendez pas?
Est-ce que, est-ce que c'est différent à Pompéi ou ailleurs, ou c'est typiquement pareil que partout, en fait?
Oui, je réponds très vite. Il y a les éléments architecturaux qui renvoient à la Pompéi d'avant la colonisation. Ouais. D'avant 80 avant Jésus-Christ,
en fait.
Oui, alors il y a peu de vestiges, hein. C'est le forum triangulaire, c'est une partie de Pompéi au sud-ouest de Pompéi, on a des vestiges, oui, on a des vestiges de fondation, on trouve d'ailleurs encore une des fameuses maisons dont nous avons fait une présentation très détaillée parce qu'elle a attiré l'attention par deux mosaïques extraordinaires. Objet de discussion, d'ailleurs. Est-ce que c'est Orion ou pas? Enfin, il faut lire, on va pas raconter. Ça n'est pas Orion. Donc, ces mosaïques datent d'avant la colonisation. Et ensuite, il y a... Alors, ce que peut-être vous voulez dire par style pompéien, il y a effectivement, à partir de la colonisation, donc 80, avec Sylla, qui sera ensuite dictateur, il va y avoir le modèle, mais comme dans tout l'Empire romain, toutes les cités veulent ressembler à Rome.
Oui, bien sûr.
Donc, on a un théâtre, on a un amphithéâtre. Il n'y a pas de cirque à Pompéi. Mais on a les rues, les boutiques, comme je l'ai dit, les nécropoles. Oui, bien sûr, on veut vivre un peu à la romaine.
Oui,
si
bien
vous
sûr. Voulez. On a tout retrouvé? Ou est-ce qu'il
non,
y en a encore
tiers
beaucoup?
Un tiers.
Il y a un tiers encore à fouiller. Mais
c'est le rêve.
Mais ce qui est important, je le dis par rapport au livre, c'est que le livre s'appuie sur les dernières découvertes qui représentent un tiers de Pompéi. Donc, on a à l'heure actuelle, dans ce livre, les deux tiers de Pompéi. Ceux qui ont été écrits avant ne peuvent donner, évidemment, qu'un seul tiers de Pompéi. Et là, et avant qu'il n'y ait les nouveaux travaux, il y aura beaucoup de temps, parce que ces travaux ont été lancés par l'Europe avec l'Italie. Mais ça a été 10 ans, financés de manière importante, de façon à ce que les fouilles soient pertinentes. Il faudra peut-être attendre encore 10 ou 15 ans, ou peut-être plus, avant qu'on voit, parce que pour l'instant, rien n'est prévu. Mais enfin, les deux tiers sont fouillés. Et la leçon, c'est qu'on découvre à chaque fois des merveilles. Ouais. Annie a parlé, j'en dirais juste un mot, parce que ça fait l'objet d'un débat. Mais on peut voir comment des archéologues qui sont devenus administratifs, directeurs généraux des musées, ce qui empêche évidemment même la petite cellule d'Hume, qui est présidente de la société de mosaïque, de dire non, ce n'est pas Orion. Il a voulu absolument voir, pour défendre fantasme personnel, dans cette femme qui est en fait vraisemblablement Isis, parce que d'abord en mosaïque, quand on est blanc, et nous avons observé de près sous toutes les coutures, et nous sommes allés avec des spécialistes, c'est blanc et ça n'est pas marron, ça n'est pas couleur chair comme l'homme dans la mosaïque, et surtout, effectivement, tout c'est le scorpion, enfin. Ça ne tient pas la route parce que il se trouve qu'avec Arnaud Zucker, qui est un grand spécialiste,
petit,
nous avons travaillé sur le placement au ciel des constellations. Et là, ça ne peut pas être Orion à cet endroit du ciel en aucune façon, parce que contrairement à ce que pensait ce charmant archéologue, que nous remercions pour tout ce qu'il a fait, il a dirigé les travaux pendant 10 ans, mais il a eu ce coup de foudre pour un Orion masculin, et alors que c'est Isis qui est la déesse scorpion par excellence, dont les scorpions tombent, évidemment. Et c'est passionnant, l'interprétation. Alors, on ne peut pas aller plus loin, mais il y a déjà un papillon. Mais ça n'est certainement pas Orion, pour des raisons techniques. C'est que les Grecs, si vous relisez Ératosthène, ne parlaient jamais des constellations simplement symboliquement. J'ai moi-même traduit le catalogue d'Ératosthène. C'est toujours, et pas tout seul, parce qu'avec les deux patrons de l'observatoire Midi-Pyrénées, qui étaient, j'allais dire, de grands astrophysiciens, et qui se promenaient avec leurs livres pour vérifier. Donc, à chaque instant, il y a la mécanique céleste de manière totalement précise qui est donnée. Il y avait une connaissance et une maîtrise du ciel chez les anciens qui fait qu'ils ne pouvaient pas placer. Et je termine juste là-dessus, vous compreniez qu'il y a eu des années et des années où on a traîné des bouquins bourrés d'erreurs parce qu'on n'avait pas demandé aux astrophysiciens de vérifier. Et chaque fois qu'on leur soumettait, pas que moi, mais beaucoup d'autres, eh bien, à chaque fois, on voyait que d'où venait l'erreur du copiste. Et il n'y a pas d'erreur dans la représentation du ciel. Et ce n'est pas possible, compte tenu des mécanismes du ciel, que le scorpion ne peut pas avaler Orion. Ce n'est pas vrai. Ça ne tient pas la route. Il peut le piquer, mais il ne peut pas dans la mécanique céleste. Donc, il y avait une méconnaissance. Alors, je dis ça parce qu'on n'arrive pas à faire dire que ce n'est pas la maison d'Orion, parce qu'entre-temps, cet archéologue que j'aime beaucoup est devenu le directeur général des musées italiens.
Aïe.
Alors, vous voyez comme les... Non, mais il faut le dire, après tout, moi, je ne cache pas mes mots. Donc, on ne peut pas arriver... Alors, les études disent, oui, ça n'est pas Orion, mais on ne touche pas au nom de la maison d'Orion avant qu'il ait quitté son poste.
Voilà. Mais là, il faut vraiment, si le sujet vous intéresse, et c'est passionnant, il faut vous plonger là dans la lecture
oui,
avec
très
les
loin,
dessins,
le livre,
les dessins à l'appui. Alors, d'autres éléments qui peuvent intéresser tous les publics, hein, et pas seulement les passionnés, mais qui... peut-être qu'ils deviendront passionnés. Je prends l'exemple de la magie sur laquelle nous avons beaucoup travaillé, Pascal et moi, parce que c'est un des aspects qu'on ne traite pas souvent. Or, parmi les dernières découvertes, il y a ce qu'on appelle le trésor de la magicienne, enfin, en italien, fattuccirie, c'est-à-dire celle qui lit les sorts, un peu comme aujourd'hui les cartomanciennes, si vous voulez. Et c'est vrai que ça se pratiquait beaucoup dans le monde romain à cette époque-là. On allait consulter... un peu comme une voyante, si vous voulez. Et donc, on a trouvé dans une maison un coffret, enfin plus exactement l'ombre d'un coffret, parce que le coffret, à cause de la chaleur, a disparu. Il reste les charnières. Mais on imagine le coffret en bois. Et à l'intérieur, une collection de plus de 120 objets qui sont des amulettes de toutes formes, des phallus, des scarabées qui montrent la présence égyptienne. Il y a des os de poulet. Il y a un petit objet très étonnant qui ressemble à un diabolo tout petit comme ça en bronze qui faisait partie de la panoplie des magiciennes. On actionnait comme ça comme un diabolo hein, pour faire du bruit et donc attirer l'attention des dieux ou des déesses. Donc, ce trésor fabuleux, effectivement, qui a été présenté d'ailleurs à Paris à l'exposition au Grand Palais, que vous avez peut-être vu, nous en faisons une longue présentation, ainsi que sur les pratiques magiques. Voilà, mais nous avons aussi, par exemple, un chapitre sur les animaux à Pompéi, sur l'alimentation, nous l'avons dit, je crois, sur la médecine, sur donc, les rites funéraires... vivre et mourir à Pompéi. Enfin, nous avons essayé d'aborder tous les aspects. J'oubliais, bien sûr, le théâtre, les gladiateurs. Deux chapitres sur les gladiateurs.
Les
sur
femmes, les ouais, femmes. Beaucoup
j'ai
les
gardé
femmes,
le meilleur pour la fin. Il y a
absolument
toute la partie assurée par Pascal. Eros, alors là...
Mais vous avez tout à fait raison.
Je n'ai pas dans cet esprit, non, très sincèrement.
Ne pas mettre entre toutes les... Non, je plaisante.
Non, là, non, simplement, si tu me permets, non, dire deux mots, mais c'est très simple. C'est qu'en fait, ce qu'on a appris... Enfin, moi, j'avais eu la chance, mais aussi de son côté. Moi, j'avais eu la chance de travailler avec Jean Yoyotte et Paul Venn à un moment donné de ma vie, qui était au Collège de France, et surtout de m'avoir appris on ne travaille pas avec les textes latins et grecs qui sont de seconde main. Et c'est-à-dire, et même un jour où je le citais, il me dit, mais moi, je suis de seconde main aussi. Enfin, bien sûr, bon. Mais ceci pour sourire, c'est-à-dire que les textes latins et grecs peuvent nous apporter énormément de choses, mais s'ils ne sont pas croisés systématiquement, s'agissant des femmes, avec l'archéologie, avec les inscriptions, avec les archives juridiques, c'est pour ça qu'Eva Cantarella a pu rectifier des quantités de choses à propos des femmes romaines. Et quand on commence à vraiment, à Pompéi, regarder et émerger ce qu'était la femme à ce moment-là, D'abord, elle est, je vais très vite. Elle est indépendante économiquement au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il n'y a plus qu'un mariage dans lequel le mari ne peut jamais toucher à ce qu'elle a, parce que ça appartient à la famille. Et bon, il y a pas mal de gens qui s'y sont frottés, mais n'ont jamais réussi. Elle reste sous tutelle, disent certains, mais elle peut très bien, à partir à l'époque de Pompéi, elle peut être totalement indépendante si elle a eu 3 enfants. Elle perd toute tutelle. C'est Auguste qui, pour favoriser la démographie, bien que conservateur, a pris une loi pour inciter les femmes à avoir des enfants, en leur promettant l'absence. Donc ça veut dire qu'elles avaient un statut, ces femmes-là, c'est bien particulier, mais qui peuvent être aussi bien de la classe moyenne que de la classe riche, c'est pas forcément... Enfin, toute femme qui avait ses 3 enfants n'avait aucune tutelle, était indépendante et pouvait divorcer. Quand retrouvera-t-on une telle période? Il faudra attendre, vous voyez, plusieurs millénaires. Bon, je n'insiste pas. Simplement, je voulais parler de l'expression des sentiments, parce que c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas de faire des théories générales. Si je suis partisan des études de genre, c'est parce qu'on étudie les cas particuliers. Et quand on tombe sur des textes qu'on a voulu nier pendant des générations, en disant « mais c'est un homme qui l'a écrit pour une femme », non, aujourd'hui, les meilleurs spécialistes attestent. Et je voulais juste vous lire pour que vous compreniez. Et ce n'est pas du tout pour choquer, mais par exemple, les amitiés féminines. Vous avez, je vais vous en lire un exemple, je le lis directement en français.
Bien rodé.
O utinam liceat colo complexa
temere. En français, alors peut-être.
En français.
Oui, oui, comme oui, j'aimerais te tenir.
Incontestablement en français.
Non, mais j'ai fait exprès. C'était une blague. Oh, comme j'aimerais te tenir mes bras serrés autour de ton cou et baiser tes lèvres tendres. Va maintenant, ma petite chérie, et confie ton bonheur au vent. Crois-moi, la nature des hommes est légère,
C'est Giscard qui a écrit ça ou...
C'est le graffiti. Souvent, je restais éveillé, perdu au milieu de la nuit, et me disais en moi-même, la fortune rejette et écrase soudain ce qu'elle a élevé. Et aussi vite que Vénus unit les corps des amants, la lumière les sépare. Et ça s'arrête là, le graffito, et il continue, écrit d'une autre main, parce que c'était sans arrêt des dialogues sur les murs, c'est ce qui est passionnant. Mur, pourquoi ceux qui s'aiment? Et le poème inachevé, donc, a été tracé par une main féminine. Je n'insiste pas là-dessus. Et vous avez à la fin un passant ou une passante, on ne saura jamais, qui a continué en évoquant la séparation de 2 amants. C'était un début de vers de vide qu'il citait ou qu'elle citait, de 2 amants, Pyram et Thisbé, dû à un mur mitoyen entre leurs 2 maisons qui les obligeait à se parler à travers la fissure du mur. Et donc, le vers lui-même, c'était une idée d'Ikebande, pariès, quid, et c'est un morceau de ce vers qui a été écrit en dessous par une âme complice. Vous voyez, ce dialogue sur les amours féminines. D'abord, une femme n'hésite pas à dire son amour à une autre femme sur un mur. Ce qui est quand même... Bon, nous sommes dans une société où il n'y a pas d'homosexualité, c'est clair, il n'y en a aucune. Il y a une bisexualité, si on veut être simpliste, mais c'est tout. Ou une monosexualité, enfin une hétérosexualité seulement. Mais cette bisexualité, elle existe naturellement. Et maintenant, dans le cadre, disons, des relations hétérosexuelles, il est passionnant de voir comment les femmes reprennent sur les murs des vers des poètes de Properce, ou les transforment, d'Ovide également, et surtout... se souviennent de la première poétesse latine que nous avons oubliée, que nous n'avons redécouvert que depuis, mettons, allez, une 20aine d'années, parce que c'était dans les œuvres de Tibulle, mais nous n'avions jamais voulu remarquer, bien entendu, que c'était écrit par une femme. Et cette Sulpicia, qui a écrit un siècle avant, était effectivement passionnante parce qu'elle nous fait comprendre ce que sont ces femmes, les femmes libres de cette époque. Bien sûr, on nous dira elle est aristocrate, oui, mais il y en avait d'autres aussi de la classe moyenne qui raisonnaient ainsi. Alors, elle commence en disant « Enfin, l'amour est venu, si fort que le dévoiler grandirait plus ma réputation que le cacher par pudeur. Émue par mes vers, Vénus l'a amenée jusqu'à moi, elle l'a laissée entre mes bras. Elle a accompli sa promesse. Ma jouissance, qu'il la raconte, celui dont on dit qu'il n'a pas joui. Non, je ne voudrais rien confier à des tablettes scellées. J'ai peur qu'un autre avant mon amant ne les lise. Je suis heureuse d'avoir péché. Et prendre l'air de la vertu pour ma réputation m'ennuie. Qu'on dise seulement que je suis digne de lui et lui digne de moi. » Et ensuite, il y aura quelque chose de beaucoup plus violent à l'égard de cet amant qui la trompe. Mais l'idée fondamentale, c'est qu'il soit digne de moi. On ne m'impose pas quelqu'un qui ne soit pas digne de moi. Et ça, sur tous les murs, sur tous les tons, c'est dit et redit. Alors, c'est ce qu'on apprend et qu'on ne voit pas, évidemment, chez les bons auteurs, même si Properce s'en parle un peu. Parfois, Ovide aussi, mais c'est cette revendication féminine qui paraît. Et on voit là que, bien évidemment, les femmes n'ont pas connu, ont été exploitées scandaleusement, enfin, ça, c'est évident, mais qu'il y a, elles ne se sont jamais tues. La voix des femmes s'est toujours fait entendre. Alors, je pourrais vous donner des quantités d'exemples, même parfois osés.
Ils achètent le livre quand même, c'est important. Moi, ce que je constate, c'est qu'en 2000 ans, on a vachement perdu sur les graffitis, je peux vous dire.
Ah oui, certainement. Oui, je ne veux pas choquer qui que ce soit, donc je n'irai pas plus loin dans les graffitis. Mais par exemple, si, je dis simplement une chose, pour qu'on comprenne, c'est que par exemple, il y avait une prostitution beaucoup moins importante qu'on l'a dit, mais qui existait à Pompéi. Une prostitution est finalement féminine, mais masculine aussi, et masculine pas seulement pour les hommes. Nous avons, j'en ai donné quelques-unes, désolé de le dire ainsi, mais il y avait une foule, il y en avait plus de 200, j'en ai mis d'une dizaine, ça fait déjà beaucoup, où les prix sont donnés par les hommes pour des cunilingus qu'ils font aux femmes. Ouais. C'est tout.
Donc, il y a tous les tarifs dans le bouquin.
Il y a tous les tarifs et il y a toutes les positions.
Oui,
formidable. Voilà.
Oui,
mais... Voilà. C'est formidable. Ah, oui, oui,
mais c'est ne disons pas que toutes les pompéiennes, je dis tout de suite, ça ne veut absolument pas dire que toutes les pompéiennes avaient recours à cela, mais ça dit quelque chose de l'ère du temps, d'une certaine, je ne dis pas liberté, mais une certaine émancipation qui existait. C'est évident.
Non. Pourquoi le lupanar tend une...
Parce que les touristes, on amène là les touristes, c'est ce qu'ils attendent. Hein. Quelqu'un, le, je veux dire, les, ceux qui
attendez,
ne
attendez,
connaissent...
Attendez, je vais vous apporter le micro pour que vous posiez les questions.
C'est un attrait touristique. Est-ce que c'était pas de la prostitution? On peut pas appeler ça de la prostitution. C'était une institution vraiment. Le sexe, voilà, sous toutes ces institutions vraiment. Le sexe, voilà, sous toutes ces pratiques du sexe et forme. Voilà.
Très simplement, vous avez d'un côté, effectivement, ce qu'on appelle le lupanar, dans des conditions qui ne sont guère, enfin, que celles pratiquées la grande majorité des Pompéiens, c'était vraiment pour ceux qui n'avaient pas d'argent. Il y avait effectivement un peu de prostitution. Il y a aussi des courtisanes, mais c'est beaucoup plus aisé, et ce sont des relations. Et fondamentalement, s'il n'y a pas, si vous voulez... J'allais dire, ce qu'il faut bien comprendre, nous sommes, je crois qu'on pourrait terminer là-dessus, nous sommes à un moment où l'homme est seul. Il n'y a pas de religion révélée, comme le dit très justement John Shelley. Il est connecté à toute la nature. Et c'est ce qui est dans la nature qui est important. C'est-à-dire que c'est le fait, oui, au premier siècle, il y a ce doute sur l'au-delà. Et donc, il y a cette connexion à la vie immédiate et absolue. Et donc, on a une présence qui irradie à Pompéi à chaque instant sur les murs, au point qu'aujourd'hui, les archéologues ne parlent plus de la maison Intel, il n'y a pas de cabinet secret, c'est toutes les maisons qui avaient des dessins que nous qualifions d'érotiques ou de pornographiques. Avec notre vision d'aujourd'hui, ben, les phallus ne l'étaient pas, par exemple, parce que c'était signe de fécondité et de bonheur. Donc, vous avez tout à fait raison de dire qu'en dehors de la prostitution qui n'était pas plus importante, les études ont été conduites que dans d'autres villes et qu'aujourd'hui, même peut-être moins importante, disent les spécialistes. En revanche, il y avait un climat de vie physique et sensuelle qui n'existait pas, mais ça ne veut pas dire que les matrones étaient des prostituées, loin de là. Elles étaient fidèles la plupart du temps. Mais qu'il y avait un mode de vie où la représentation de l'amour sous ses formes physiques ne choquait pas.
Oui, alors peut-être pour... peut-être terminer là-dessus, oui, voilà. Hic habitat felicitas, c'est une formule qu'on peut voir au-dessus d'un énorme pénis qui était dans ce qu'on a longtemps appelé le cabinet secret du musée de Naples. Il faut savoir qu'encore dans les années 60-70 du siècle dernier, seules les femmes mariées pouvaient entrer dans cette partie de cabinet secret. J'ai une amie qui m'a raconté cette histoire. Hein. Donc, quand vous étiez au musée à Naples, vous ne pouviez pas entrer là où sont conservées ces fresques érotiques. Donc, hic habitat felicitas, c'est ici habite le bonheur. Et maintenant, ça pose aussi quand même, il faut dire deux mots, de la question de la prostitution. Qu'est-ce qu'on appelle prostitution? J'ai eu la chance de rencontrer un des anciens directeurs de Pompéi, le professeur Guzzo. Non, pas un Pompéien, j'aurais aimé. Mais
non, bon, prostituée, je pensais.
Non, mais qui disait, il en parlait très sérieusement, dans beaucoup de maisons particulières, le maître de maison prostituait ses esclaves. Les esclaves, ça rapportait. Et on a trouvé des graffitis, justement, érotiques, dans beaucoup de maisons, avec des prix. Donc, il faut se sortir, c'est ce que disait Pascal, c'est un formidable voyage, parce que non seulement on découvre, mais il faut se sortir de ses préjugés. On a parlé de l'esclavage, on a parlé de la prostitution, on a parlé des femmes. sont tellement forts.
Un livre interdit au Pascal Nutan, vous l'avez compris, Pompéi,
il est 9h,
c'est sous la direction de Pascal Charvet, bien sûr, et Annie Colonia, évidemment, non, bien sûr, on peut les applaudir, je crois. Ils sont formidables.